Présente dans 15 pays d'Afrique, Suno Assurance vous souhaite une belle année 2018 pleine d'assurance et vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons aujourd'hui dans Priorité Santé de revenir sur l'affaire Lactalis. Lactalis est le numéro 1 mondial du secteur laitier, un groupe français dont le nom, depuis le début du mois de décembre, ne quitte pas la une de l'actualité française. Ce scandale sanitaire a même pris au début du mois une dimension internationale lorsque le retrait des lots de lait infantile présentant un risque de contamination à la salmonelle s'est étendu au monde entier. En France, si l'ensemble des bébés contaminés se portent bien aujourd'hui et plus aucun n'est hospitalisé, eh bien l'affaire Lactalis n'est pas close pour autant. Pourquoi ? Parce qu'elle illustre des dysfonctionnements en série dans un secteur ultra sensible, celui de l'alimentation, qui plus est de l'alimentation pédiatrique. Elle illustre les ratés dont une enquête devra déterminer la nature et éventuellement le caractère délibéré. L'affaire implique de nombreux acteurs, producteurs, distributeurs, services de l'État qui aujourd'hui doivent rendre des comptes. Pour expliquer pourquoi, une fois la contamination avérée, les décisions qui s'imposaient n'ont pas forcément été prises. Comment des stocks d'aliments infantiles potentiellement à risque ont-ils pu être écoulés en dépit des alertes ? Et de cette affaire, eh bien, des enseignements seront tirés. Le gouvernement s'y est engagé. Certains dispositifs seront améliorés pour éviter que cette cacophonie sur fond d'intérêt commercial ne se répète pas à l'avenir. Beaucoup de questions en suspens, on va le voir dans cette affaire. Et l'une d'entre elles, c'est le refus de communiquer de Lactalis. Opacité longtemps érigée en identité d'entreprise et qui, semaine après semaine, a renvoyé au monde un certain sentiment d'impunité. Le patron de l'entreprise, Emmanuel Beignet, est sorti du silence après plus d'un mois de crise. Et pour préparer cette émission, bien sûr, Priorité Santé a souhaité solliciter le groupe alimentaire qui, lui, n'a pas souhaité être aujourd'hui représenté pour expliquer ses agissements. Une affaire donc aux enjeux multiples qui met en scène de nombreux acteurs, dont plusieurs sont avec nous aujourd'hui en studio. Quentin Guillemin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles. Benjamin Dourier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs. Et je termine ce tour de table avec vous, professeur Patrick Tougnan, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes pédiatre, chef du service de nutrition de l'hôpital Trousseau à Paris.
RFI.
Bien sûr, dans cette émission, on va parler justice, information, mais d'abord, pour comprendre l'écho donné à cette affaire, il y a professeur Patrick Tougnan, l'extrême sensibilité liée au produit lui-même. Il s'agit de lait infantile, on dit aussi parfois du lait maternisé. On n'a pas affaire à une marchandise ordinaire.
Non, vous avez tout à fait raison. Tout ce qui touche l'enfant est particulièrement sensible. Et c'est bien sûr indéfendable qu'il puisse y avoir des bactéries pathogène à ce taux d'inoculation dans des laits infantiles, c'est indéfendable et inadmissible.
Et surtout que là, on parlait de produits destinés à de très jeunes enfants, des nourrissons 0-6 mois.
Alors, c'est vrai que certains des laits étaient destinés aux plus jeunes enfants, c'est-à-dire dès la naissance, et notamment avant 3 mois, période de la vie où on est particulièrement sensible aux infections.
Avec une très faible défense immunitaire.
Avec une plus faible défense immunitaire et des risques liés à la salmonelle beaucoup plus élevés que ceux qu'on peut voir chez l'enfant plus âgé.
Professeur Patrick Tougnan, on l'a dit dès l'introduction de l'émission aujourd'hui, c'est très important forcément. Les bébés qui ont été contaminés par ce lait produit par Lactalis, ces bébés atteints de salmonellose, se portent bien aujourd'hui.
Depuis très longtemps, ils se portent bien. Il y a eu, à ma connaissance, 35 à 40 cas.
37 hospitalisations officiellement recensées d'après les derniers décomptes.
Voilà, ce qui est très très peu sur les milliers d'enfants en France qui ont consommé le lait. Je ne parle pas bien sûr de tous ceux qui ont consommé le lait dans le reste du monde, mais là je crois que les statistiques sont un peu plus difficiles à obtenir.
Complexe, il y a eu 2 cas, un en Espagne et en Grèce, mais encore tout ça est assez incertain. Alors avant de donner la parole à nos invités en studio, on va retrouver au téléphone le docteur François-Xavier Veil, médecin biologiste qui dirige l'unité des bactéries pathogènes entériques à l'Institut Pasteur. Bonjour docteur Veil.
Bonjour.
C'est une équipe de pasteurs qui est la première à relever un nombre inhabituel de bébés atteints. C'était en décembre. Première question, quel trouble a provoqué la salmonelle chez les bébés qui avaient bu le lait contaminé? Quel type de troubles ont donc été recensés?
Alors, je pense que le professeur Tounian pourrait bien répondre sur ces questions de clinique. Mais en fait, les salmonelles, ce sont des bactéries qui vont envahir les cellules de votre tube digestif. Donc, vous allez avoir une gastro-entérite avec de la fièvre, donc douleur abdominale, vomissement, diarrhée.
Docteur Veil, comment expliquer cette contamination dans les différents articles que j'ai pu lire pour préparer cette émission? On parle d'une colonne de séchage. De quoi s'agit-il exactement?
Alors moi, je ne suis pas du tout impliqué dans l'enquête au niveau de l'usine. Nous travaillons comme un filet de sécurité financé par le ministère de la Santé pour dépister des cas chez l'homme. C'est-à-dire qu'un industriel qui doit normalement mettre sur le marché un produit indemne de tout agent pathogène, eh bien, s'il y a une défaillance au cours de la production, eh bien, le ministère de la Santé a mis en place un système depuis 50 ans pour voir s'il y a des cas liés à ces bactéries chez l'homme. Et si on a des cas liés à un même type de salmonelle au cours d'une même semaine, eh bien, on va émettre une alerte. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. C'est ce qui s'est passé également en 2005, avec la même salmonelle et du lait en poudre. Et puis, les épidémiologistes vont ensuite interroger les parents pour voir quel est le point commun entre tous ces cas.
Donc, il y a une dimension d'enquête dans votre travail également?
Ah oui, il y a une surveillance. Et dès qu'il y a un signal anormal, il y a une enquête. Donc là, pour répondre à votre question sur la tour de séchage, en fait, il y a une enquête en cours qui essaye de voir où la salmonelle a pu, à quel moment elle a pu se retrouver dans le lait. Il faut savoir que les salmonelles vivent dans le tube digestif des animaux et qu'on se contamine finalement en consommant des produits issus de ces animaux. Ça peut être du lait cru, des œufs, de la viande insuffisamment cuite. Ça peut être aussi par contact direct avec l'animal. Et dans le cas là, d'une usine à lait en poudre, donc on peut penser que la contamination a pu avoir lieu en amont de l'usine, donc dans le lait, qui n'aurait pas été suffisamment thermisé. Ça pourrait être également un sanctuaire dans l'usine, qui serait à l'abri de toute décontamination, des infections. Donc là, la possibilité de la tour de séchage, ça peut être également dans l'environnement de l'usine, avec des animaux sauvages, des rongeurs, des pigeons, qui pourraient également contenir la salmonelle sur de nombreuses années.
D'où cette dernière question, docteur François-Xavier Veil, comment éviter ce type de contamination?
Alors, vous parlez en particulier pour les enfants ou...
Non, dans ce genre de structure agroalimentaire, vous avez pointé les différentes sources possibles de contamination. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, par exemple, augmenter certaines inspections? Est-ce qu'il faut changer certains protocoles d'hygiène? Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ce type de contamination?
Alors, c'est vrai que les règlements laissent à l'appréciation de l'industriel tous les moyens qu'ils mettent en œuvre pour mettre sur le marché un produit sain. Donc là, je ne suis pas impliqué dans toute cette réglementation, mais j'ai cru comprendre qu'au niveau gouvernemental ou au niveau des législateurs, ils vont demander peut-être une plus grande transparence des industriels, et notamment en cas d'autocontrôle positif. Vous savez, les personnes de Lactalis avaient dit qu'il y avait eu des autocontrôles quelques mois avant l'épidémie dans l'environnement de l'usine. Eh bien, jusqu'à présent, l'industriel n'était pas obligé de les communiquer. Donc peut-être qu'on va aller vers un type de transparence où l'industriel devra communiquer tout autocontrôle positif avec des pathogènes.
Merci beaucoup, docteur François-Xavier Veil, médecin biologiste à l'Institut Pasteur. Vous vouliez réagir, Benjamin Dourrier. Oui, on a parlé, en effet, hein, du côté de Lactalis, de tests qui s'étaient révélés positifs. Mais en fait, on a mis un couvercle dessus, tout simplement.
Alors, c'est vrai que ce qui nous a été dit, c'est que les bactéries avaient été décelées dans l'usine, mais pas dans les produits. Donc, ce que cette affaire démontre, c'est le besoin, j'allais dire impérieux, d'avoir une administration qui joue son rôle de gendarme. Le rôle de l'administration, c'est de faire des contrôles. Et c'est vrai que la tendance depuis un certain nombre d'années, c'est de se reposer de plus en plus sur ce qu'on appelle effectivement les autocontrôles. Ça veut dire que c'est l'industriel lui-même qui contrôle ou qui fait contrôler par des laboratoires qui le mandatent à cet effet. Et on voit bien que dans cette affaire, ça n'a pas suffi. Donc on a besoin d'avoir une administration qui joue son rôle de gendarme. Et le problème, c'est que depuis un certain nombre d'années, autant du côté de la répression des fraudes que des services vétérinaires, la tendance, elle est plutôt à la réduction des effectifs qu'à l'augmentation. Donc ça fait moins de contrôle, forcément.
On attend donc de la part de ces industriels une conscience, en quelque sorte. Pourtant, du côté de Lactalis, ces autocontrôles, y compris positifs, avaient été réalisés entre le mois d'août et le mois de novembre. On va le voir, hein, au cours de cette émission. Le calendrier, les dates, c'est très important parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui n'ont pas été prises à temps. Je voulais quand même insister sur ce point des salmonelles. On est dans une émission de santé. Benjamin Dourrier, votre journal l'a établi. Les salmonelles, c'est l'un des motifs les plus fréquents de rappel de produits en France, hein, juste après la listeria.
Alors, c'est vrai que là, cette affaire est extrêmement médiatisée sur enfin, tout le monde en a entendu parler, mais les rappels de produits liés aux salmonelles, c'est pas si rare que ça. Donc nous, à 60 millions de consommateurs, on tient quasiment jour le jour la chronique des rappels de produits.
Et j'ai même vu que vous parlez de 15% des rappels de produits
effectivement,
alimentaires.
Effectivement, quand on a fait le bilan statistique sur les rappels de produits alimentaires, 15% était lié à la présence de salmonelles. Donc récemment, on a eu un rappel de produits d'un lot de reblochon contaminé aux salmonelles.
On
a eu du chorizo, des salades toutes prêtes. Ça, c'était ces derniers mois ou ces dernières semaines. Là où l'affaire Lactalis est un peu hors norme, c'est d'abord par le nombre de produits concernés. Parce que dans les autres rappels, le plus souvent, on rappelle un lot ou quelques lots d'un produit. Là, on voit qu'on a la totalité d'une production qui a été contaminée ou qui est susceptible de l'avoir été. Donc ça, c'est le premier élément qui fait que c'est une affaire hors norme. Et le deuxième, c'est naturellement, ça vous l'avez bien expliqué, c'est que c'est un produit destiné aux tout-petits qui ont uniquement ce lait comme aliment. Donc effectivement, ça explique le fait que cette affaire ait pris de l'ampleur à juste titre.
Alors on l'a dit, hein, l'historique de cette affaire, c'est important. Quelques dates de décembre. Premier retrait de 12 références de lait infantile, tout produit sur le site de Craon, c'est en Mayenne, hein, dans l'ouest du pays. 8 décembre, arrêt de l'usine, après une notification par arrêté ministériel. 9-21 décembre, extension des mesures de retrait. 12 janvier, retrait de toutes les boîtes de lait infantile incriminées. Et puis autre acteur dans cette affaire, c'est la répression des fraudes qui a publié justement un communiqué officiel. Les services ont lancé une série d'inspections. Les résultats seront bientôt publiés. Perquisition au siège de Lactalis, c'était la semaine dernière. Et une certaine cacophonie après tout ça, hein, retrait incomplet, négligence même des distributeurs, puisque après les mesures de retrait, bien, on a encore trouvé des boîtes de lait dans certains supermarchés ou hypermarchés du pays, même dans des pharmacies. D'où Quentin Guillemin, la plainte que vous avez déposée auprès du pôle santé du procureur de la République de Paris.
Oui, mais d'abord je voudrais revenir sur la question des familles et des victimes, parce que vous dites les victimes vont bien. Moi j'ai des exemples tous les jours. Et encore aujourd'hui, de familles dont les enfants ne vont pas bien. Voilà. Et je le dis, et j'en ai des preuves, donc je ne le dis pas au hasard. Il y en a des preuves d'ailleurs, des témoignages dans toute la presse au quotidien. Il faut savoir que la salmonelle chez des jeunes enfants, mais vous l'avez très bien dit, professeur, ça peut conduire à des complications.
Et donc, c'est pas
si simple pour des enfants. Là, je parle par exemple, la vice-présidente de l'association, vous voyez, son fils a eu la salmonellose dont on parle, donc elle fait partie des 38 cas en question. Son enfant est encore aujourd'hui à une bronchiolite, vous voyez, avec un masque à oxygène tous les jours, qui fait suite à cette salmonellose. Donc, je veux le dire, à un moment donné, et qui fait suite à plusieurs rechutes. Et peut-être, professeur, vous pourrez effectivement, il y a plusieurs rechutes derrière, parce que l'enfant est porteur, effectivement, plus longuement, semble-t-il. Moi, je ne suis pas médecin, donc je laisserai au médecin le soin de commenter ça. Mais on a des enfants dont qui subissent des complications derrière. Et ça, c'est important de le dire aussi parce que on a des familles qui nous écoutent, dont les enfants sont malades à l'heure actuelle et qui tous les jours m'écrivent en me disant c'est un scandale que nous ne parlons pas de ces enfants qui ont fait des rechutes. Et je l'ai dit à Madame la ministre de la Santé, j'ai dit il faut faire un suivi de ces enfants parce que c'est bien de donner un chiffre à un moment T. Mais c'est bien d'avoir un suivi aussi des situations, notamment des situations de ces enfants qui consultent par ailleurs vos confrères.
Professeur Patrick Tounian, vous voulez réagir ?
Oui, bien sûr, parce que j'ai beaucoup entendu parler de ça. La bronchiolite n'a jamais été une complication de la salmonelle, elle ne le sera jamais. Donc, on est dans une période où il y a beaucoup de gastro-entérite, beaucoup de bronchiolite, de grippe, et c'est pas parce qu'on a une salmonelle qu'on va attraper plus facilement un virus, une grippe. Donc je suis désolé de vous contrarier, mais la bronchiolite n'a absolument aucun rapport avec la salmonelle. Et je pense qu'il faut éviter de paniquer les familles. Je répète, ce problème est scandaleux. Il est absolument inimaginable qu'il puisse y avoir des salmonelles dans les laits. Mais il faut pas non plus que les familles s'affolent. À l'hôpital Trousseau où je travaille, il y a eu une infection à salmonelle. Ça arrive, hein, on l'a dit, chez un enfant qui n'avait pas consommé de lait Lactalis. D'ailleurs, ce n'était pas la salmonelle à Gona. Eh bien, l'interne a demandé un dimanche à ce qu'on recherche la salmonelle dans le lait. C'est stupide. Donc, il y a un affolement autour de ça. Alors, c'est très bien de défendre les familles, mais il ne faut pas non plus avoir une panique générale. Qu'est-ce que ça donne la salmonelle ? Ça donne des complications très graves chez le 0-3 mois. Fort heureusement, il n'y en a pas eu, puisque tous les enfants sont sortis. Une fois qu'on a guéri de la salmonelle, on n'a plus rien, si ce n'est deux choses. Un, le portage chronique sans symptômes, c'est-à-dire qu'on l'a dans les selles. Bon, ici autour de cette table, on a peut-être des salmonelles dans les selles, on ne le sait pas. Et la deuxième chose, et ça, c'est la seule complication, mais qui n'est pas une complication très grave, c'est ce qu'on appelle l'intestin irritable. C'est-à-dire que les enfants gardent, après n'importe quel gastro-entérite, des selles un peu liquides, nauséabondes, volumineuses, sans aucun autre symptôme. C'est ce qu'on appelle un intestin irritable. Ça, après n'importe quel gastro-entérite, ça peut apparaître, a fortiori, après une gastro-entérite à salmonelle. Mais tout ce que j'entends dans la presse, et je crois qu'ils ont été consultés, mes confrères de Toulouse, je ne sais pas si c'est de ce cas dont vous me parlez, et mes confrères de Toulouse, si j'ai bien compris, n'ont pas fait de lien entre la pathologie de l'enfant et la salmonelle, et bien évidemment, ils ont probablement raison. Donc, c'est très important de s'occuper des familles. Encore une fois, c'est scandaleux, hein, on ne va pas le dire le contraire, mais il faut quand même raison garder et savoir remettre en place les vraies complications qu'il peut y avoir. Et surtout, je répète, je suis désolé de vous contrarier, mais la bronchiolite n'a jamais, ne le sera jamais, une complication de la salmonelle.
C'est très bien de l'entendre. Je vous remercie d'ailleurs de le dire, parce qu'au moins, on est plus au clair sur les situations. Mais quand même, malgré tout, et je pense que là-dessus, on ne peut pas nous nier les choses, il y a des complications. Et il y a des complications, y compris suite aux défenses immunitaires. On sait très bien que ça joue sur des enfants de très bas âge, sur la question des défenses immunitaires. Donc, j'entends vos propos qui sont rassurants, et je les comprends par ailleurs. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas créé la panique, vous voyez, alors qu'on aurait pu le faire dans le mois où s'est passée la chose, notamment au mois de décembre, où on avait un certain nombre de mails très affolants, on va le dire comme ça, mais que nous n'avons pas souhaité, y compris communiquer, sur lesquels nous n'avons pas souhaité communiquer, parce que nous ne souhaitions pas effectivement créer de la panique ou ce type de, on va dire, de désordre. Pour autant, et je le redis, il va falloir qu'il y ait un suivi de ces enfants, parce que, je le dis, les familles en question ne sont pas accompagnées à l'heure actuelle. Évidemment, elles consultent vos confrères, et c'est très bien, et il faut le faire, parce que c'est utile aussi, à un moment donné, d'avoir des conseils de spécialistes. Nous ne sommes pas spécialistes ni praticiens de santé, mais je le dis, il faut qu'il y ait un suivi de ces enfants. Voilà.
Quentin Guillemin, on vous retrouve hein, tous les trois pour la suite de l'émission. Professeur Patrick Tounian, Benjamin Doury, on va parler d'autres aspects de cette affaire Lactalis, notamment les ratés du processus d'alerte, la réaction des pouvoirs publics. On se retrouve tout à l'heure, surtout du processus de retrait des produits. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le point de l'actualité.
Priorité santé. Caroline Paré.
L'affaire Lactalis, deuxième partie de Priorité Santé consacrée à ce scandale sanitaire qui agite la France depuis près de 2 mois. Avec au fil des semaines de nombreuses questions restées sans réponse sur le retard pris, les négligences pour appeler des lots de lait infantile contaminés à la salmonelle. On retrouve donc nos invités en studio, Benjamin Dourier, rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs, le professeur Patrick Tougnon, pédiatre chef du service de nutrition de l'hôpital Trousseau à Paris, et Quentin Guillemin, président de l'association des familles des victimes du lait contaminé aux salmonelles. Alors on a entendu de différents ministres réagir ces derniers jours, dernières semaines, exprimer leur point de vue, promettre des poursuites, des changements aussi. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, très présent. Et le 12 janvier, c'était la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, qui s'exprimait.
D'abord, notre système d'alerte sanitaire a fonctionné, puisque nous avons été capables, sur les 8 premiers cas d'enfants contaminés en France, de repérer qu'une salmonelle était en cause, de remonter le fil et de trouver la cause de la contamination. Donc c'est clairement un système de surveillance sanitaire qui fonctionne en France. Par contre, là où on est extrêmement inquiet, c'est effectivement le fait que les gens ne prennent pas suffisamment conscience du risque sanitaire dans les retraits de l'eau, qui est totalement de la responsabilité de chacun. Et les gens sont exposés à des peines graves, des peines pénales, des amendes, et donc je pense qu'il faudra faire un retour d'expérience sur cette partie-là de l'alerte, c'est-à-dire le retrait. Nous verrons les responsabilités de chacun. En tous les cas, en termes d'alerte, nous n'avons pas pu être plus clairs que ce que nous avons fait depuis le 2 décembre.
Mais votre conviction, c'est qu'il y a une faute lourde du fabricant de Lactalis.
Ah, je crains que nous trouvions des choses étonnantes chez Lactalis, parce qu'il y a eu une forme de résistance, nous le sentons, dans les retraits de l'eau. Nous avons eu 3 vagues de retraits de l'eau successifs, ce qui a compliqué aussi le traitement de cette information par les distributeurs. C'est-à-dire qu'on a d'abord incriminé 2 marques, puis plusieurs, puis plusieurs autres. Et donc tout au long du mois de décembre, il y a une sorte de d'événement continu qui a compliqué, je pense, la tâche des distributeurs. Il y a une enquête en cours, mais les services de l'État ont fait leur travail.
Agnès Buzyn, le 12 janvier sur Europe 1. Alors, une enquête préliminaire est donc ouverte à Paris, hein, et ce depuis le 22 décembre. Tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine, inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel d'un produit préjudiciable à la santé. Quentin Guillemin, Agnès Buzyn estime que les services de l'État ont fait leur travail. Est-ce que c'est votre sentiment?
Bah écoutez, moi j'entends les propos qui viennent d'être diffusés, je bondis. Voilà. Je bondis parce qu'on remet la responsabilité sur le consommateur. C'est quand même incroyable. La responsabilité, c'est pas aux familles de vérifier que le lait en question qu'ils ont acheté n'est pas consommable. C'est quand même aux distributeurs, aux pharmaciens, on parle même d'hôpitaux. Enfin, je veux dire, c'est quand même à eux de vérifier que les laits qu'ils vendent, qu'ils donnent aux enfants ne sont pas concernés.
Donc, je pense que c'est ce que Madame Buzyn.
Oui, elle a dit. C'est pas très clair.
Aux distributeurs,
c'est pas très clair.
On a entendu.
Moi, je le comprends pas comme ça.
Aux distributeurs et aux producteurs, c'est ce que j'ai entendu.
Et après, il y a quand même une responsabilité du début à la fin. Et moi, j'en suis persuadée. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai porté plainte par ailleurs, parce que je pense. D'ailleurs, si on n'avait pas porté plainte aujourd'hui, où on en serait? Où on en serait? En 2005, je vous rappelle, plus de 140 bébés contaminés. Que s'est-il passé? Rien. On a même redémarré l'usine, alors même qu'on n'avait pas trouvé la cause. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INVS de l'époque. Alors même qu'on n'avait pas trouvé la cause de la contamination de l'usine, on a redémarré l'usine, vous voyez? Et vous voyez où on en est en 2017 aujourd'hui? Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a une responsabilité de toute la chaîne. Que s'est-il passé entre 2005 et 2017? Pourquoi les autorités n'ont-elles rien fait dans ce laps de temps? Quels ont été les contrôles réalisés dans cette entreprise? On en parlait tout à l'heure. Et à un moment donné, c'est à l'État de vérifier que les procédures de rappel sont bien réalisées. Parce que oui, il y a une responsabilité des distributeurs qui ont continué à vendre. Oui, il y a une responsabilité des pharmaciens et des services publics. Mais à un moment donné, il y a aussi une responsabilité de l'État de faire en sorte que la loi s'applique, que quand il y a une procédure de retrait, elle soit appliquée, que quand il y a une loi qui s'applique, on parle d'impunité de Lactalis, vous voyez, quand il y a des lois, elles s'appliquent à tous, y compris à Lactalis. Lactalis n'est pas au-dessus des lois, contrairement à ce que dit un ministre il y a quelques jours dans une émission de télé. Voilà.
Agnès Buzyn, on l'a entendu, la ministre, tout à l'heure, parler justement de toutes ces marques. Au fur et à mesure, on a appris que d'autres marques étaient concernées. Le tout, bien sûr, produit encore et toujours par Lactalis, hein, on le dit encore, numéro 1 mondial. Professeur Patrick Tougnon, comment s'explique justement cette multiplicité de l'offre? C'est assez flou pour le consommateur quand même.
Alors, sûrement, mais pour avoir vécu le cœur du problème, je peux très rapidement résumer ce qui s'est passé. Avant de prévenir la population entière, il fallait être sûr qu'il y avait une contamination. C'est l'Institut Pasteur, comme l'a dit le docteur Veil tout à l'heure, qui a vu qu'il y avait plusieurs salmonelles identiques qui étaient venues de quatre coins de la France.
C'est salmonelle Agona.
Agona. Il y a alors eu une enquête et on s'est aperçu que les enfants avaient consommé quatre laits de chez Lactalis. Et une fois que ça s'est su, ça a été extrêmement vite. La Société française de pédiatrie que je représentais, avec son président Christophe Delacour, a été contactée un vendredi soir à 21h30. On m'a demandé, pour le lendemain, 14h, de faire une liste des laits de remplacement. On est samedi. On a eu une conférence téléphonique avec le directeur de cabinet de M. Bruno Le Maire, le directeur général de la santé Benoît Vallée, la directrice générale de la répression des fraudes, et toute l'après-midi, on a travaillé dessus, et à 21h, j'étais encore avec le directeur général, et on voulait repousser l'alerte au lundi matin, pour ne pas affoler les gens un dimanche, et à juste titre, le gouvernement a refusé, et le dimanche matin, à 8h30, tous les médecins, tous les hôpitaux, tous les pharmaciens de France recevaient une alerte. Moi, je trouve que ça a commencé un vendredi soir. Le dimanche à 8h30, la France entière est prévenue. Je suis d'accord avec Madame Buzyn. Je trouve qu'on a réagi vite. On a travaillé les week-ends, toute la nuit, de samedi à dimanche, pour réagir le plus vite possible. Voilà, maintenant, est-ce que c'était possible avant? Je suis incapable de vous dire. En tout cas, entre le vendredi matin et le vendredi soir et le dimanche matin, ça me paraît assez rapide. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Benjamin Dourian, en quelques mots, vous voulez réagir parce qu'on a la oui. Côte d'Ivoire en ligne.
Alors, effectivement, je comprends bien l'émotion des parents concernés, mais effectivement, moi, je trouve aussi que la chaîne d'alerte dans les services de l'État en France a plutôt bien fonctionné. Effectivement, on a eu, les journalistes ont reçu coup sur coup de samedi à 20h des communiqués avec les références des produits rappelés. Donc, l'alerte, une fois qu'elle a été donnée, a plutôt bien fonctionné. Ce qui n'a sans doute pas bien fonctionné, c'est les contrôles qui auraient peut-être pu être faits avant. Est-ce qu'on aurait pu déceler ça plus tôt? Là, il y a un vrai souci.
Et aussi les impératifs, justement, de communication entre l'industrie et les services de l'État. Ça, on va en reparler.
Chez Lactalis, c'est évident.
Voilà, 12 millions de boîtes concernées au total, hein, puisque maintenant, c'est une affaire internationale. Lactalis réalise une bonne part de son chiffre d'affaires à l'étranger, 21% en Amérique, 14% en Océanie, 7% en Afrique. Alors, nos auditeurs, bien sûr, sur le continent africain ont réagi. Certains du Bénin, du Niger, du Tchad, ils nous ont indiqué dans des messages Facebook que les produits Lactalis, hein, le lait avait été interdit de la vente dans leur pays, retrait des points de distribution. Et on va faire le point pour ce qui est de la Côte d'Ivoire avec vous, docteur Raymond Goudou-Kofi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à l'invitation de RFI. Comment les Ivoiriens ont-ils été informés de cette affaire Lactalis, dont on parle hein, depuis des semaines déjà en France?
Oui, je dois vous dire que nous avons reçu en tant que ministère de la Santé une notification du laboratoire Lactalis, notification d'ailleurs qui a été approuvée par les autorités sanitaires françaises, hein. Le 14 décembre et le 29 décembre. Donc en Côte d'Ivoire, nous avons été très proactifs. Nous avons donc, dès le 15 décembre, j'ai signé un avis de retrait des lots incriminés en direction de la direction de la pharmacie et du médicament et du laboratoire qui s'est chargé de la diffusion auprès de nos grossistes répartiteurs. Ensuite, j'ai échangé avec le ministre en charge du commerce et nous sommes entendus pour que l'avis que j'ai envoyé puisse également servir au niveau des différents distributeurs, les grosses centrales d'achat. Et c'est comme ça que nous avons procédé. Donc le message est passé très vite. Nous avons également utilisé l'alerte SMS, hein, comme un peu partout, pour entrer en contact avec nos 1000 pharmaciens d'officines privées sur toute l'étendue du territoire. Et ainsi, les grossistes répartiteurs ont retiré tous les lots qui se trouvait donc au niveau des officines privées. Et le ministère du Commerce est chargé de retirer également les lots qui se trouvaient dans les supermarchés, les grandes surfaces et autres. Voilà comment nous avons procédé au départ. C'est allé très vite. C'est allé très vite et nous avons alerté tous les hôpitaux, les cliniques. Je dois vous dire qu'à ce jour, nous n'avons pas eu de problème particulier signalé comme quoi il pourrait y avoir des conséquences sur des enfants.
Alors, on a vu en France, par contre, des ratés hein, dans le processus de retrait de certaines boîtes chez des distributeurs, y compris d'ailleurs dans des officines de pharmacie. Est-ce que chez vous, en Côte d'Ivoire, docteur Raymond Goudoukofi, vous avez procédé à des sortes de vérifications pour voir si effectivement vos ordres avaient été suivis des faits ?
Absolument, absolument. Donc après donc la procédure que je viens de vous énumérer, nous avons envoyé les inspecteurs sur le terrain, ceux-ci en inspection contrôle depuis, si je ne me trompe pas, le 3 janvier 2018. Nous avons donc envoyé une inspection contrôle sur toute l'étendue du terrain. Ça a été plus facile parce que après avoir alerté les directeurs départementaux et directeurs régionaux qui sont un peu nos pendants sur le territoire, au niveau des différents districts sanitaires. Ils nous ont fait des retours et jusqu'à ce jour, comme je vous dis, vraiment, nous n'avons pas eu d'alerte particulière. Mais vraiment, l'inspection a été faite partout. Également, dans les supermarchés, il y a eu des inspections contrôle, mais qui ont été faites par nos inspecteurs, justement, au niveau de la direction de la pharmacie, des médicaments et du laboratoire.
De quel type de structure d'alerte, de veille dispose la Côte d'Ivoire pour faire face à ce type de problème ? Imaginons qu'il s'agisse là d'un produit directement fabriqué sur le sol ivoirien.
Alors c'est très facile, nous avons l'Institut National de Santé Publique, nous avons l'Institut National d'Hygiène Publique, NHP, dont le rôle est justement, qui a un rôle d'inspection sur tout dans les restaurants, au niveau des structures sanitaires. Et nous avons le Laboratoire national de santé publique qui, lui, a pour mandat de faire des prélèvements et de faire une sorte de pharmacovigilance, voilà, qui joue un peu le rôle de pharmacovigilance, fait les prélèvements, il fait les contrôles de tout, par exemple, tout produit qui entre et tout produit qui est fabriqué sur le territoire ivoirien.
Merci beaucoup, docteur.
Et je dois vous dire aussi que, souvent vous parliez justement d'inspection, je dois vous dire qu'actuellement, nous avons pu retirer 108 430 boîtes qui ont été retirées sur le territoire ivoirien.
Combien de marques sont concernées, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, en France, hein, de nombreuses marques produites par Lactalis. À l'étranger, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes noms pour les produits. Est-ce que vous pouvez citer justement un certain nombre de ces produits au cas où, si des parents avaient encore des boîtes chez eux, qu'ils les mettent en dehors de la circulation, qu'ils donnent autre chose à leur bébé. Et dans ce cas-là, peut-être qu'ils posent la question à leur pharmacien, au docteur, pour savoir ce qu'il faut substituer comme produit pour le bébé.
Effectivement, nous avons donc l'avis de retrait que j'ai pu faire passer concernait la gamme des marques Pico, qui sont récemment vendues en Côte d'Ivoire, Pico Célia, Milumel. Et nous avons même élargi à la gamme Mami. Je crois que ça concerne Mamie 1, Mamie 2, Mamie 3. Oui, voilà, concernant en tout cas la Lactalis, c'est surtout ces marques-là, cette gamme-là.
La marque Mamie, je pense, qui est peut-être spécifique pour l'Afrique.
Effectivement, je ne suis pas sûr qu'elle soit commercialisée en
voilà.
France.
Voilà, parce que les autres marques Pico Mélumel sont commercialisées, elles, en France. Merci beaucoup, docteur Raymond Goudoukofi, d'avoir répondu aux questions de priorité santé. Je rappelle que vous êtes ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire. Justement, on parlait tout à l'heure de cette procédure d'alerte, Benjamin Dourier. Rappel des produits. D'ailleurs, la loi impose à tout professionnel qui organise un rappel de produits d'en alerter la répression des fraudes. On peut dire qu'il y a la loi et la réalité, hein, et certains ne se soumettent pas forcément à cet exercice.
Alors là, le problème qui se pose dans cette affaire de Lactalis, la répression des fraudes était naturellement alertée depuis début décembre. Le problème, c'est une question d'application du retrait dans les magasins. Il y a un certain nombre de boîtes qui sont passées entre les mailles du filet, ce qui, pour un rappel qui était aussi médiatisé, est assez incompréhensible, même, j'allais dire, un peu inquiétant, parce que des rappels de produits, il y en a assez fréquemment. Nous, à 60 millions de consommateurs sur l'année dernière, on a récemment fait le décompte, on en a compté 270. Donc si sur ce rappel aussi médiatisé, la grande distribution et même certains pharmaciens n'ont pas été capables de retirer absolument toutes les boîtes de leur rayon, qu'est-ce qui se passe pour les autres rappels de produits ? Donc ça, c'est effectivement un petit peu inquiétant, malheureusement.
Il y a un point sur lequel on n'a pas encore tout dit, professeur Tougnon, c'est ces fameuses marques. J'aimerais comprendre pourquoi il y a autant de marques de lait Il y a tellement de différences d'un produit à l'autre. C'est du marketing. C'est quoi exactement?
Non, bien sûr, c'est du marketing. D'ailleurs, vous voyez, il y a deux marques différentes chez Lactalis. On les a citées, Picot et Émile Humel. Les grands groupes français, Nestlé, Danone, ont aussi exactement la même chose, c'est-à-dire des noms différents. C'est bien sûr du marketing. Les différences sont minimes. J'aimerais justement revenir sur un point très important, parce que j'ai pas bien répondu à votre question tout à l'heure.
Si vous le dites, allez-y.
Sur les laits. Au départ, il y a eu donc quatre laits, ça je l'ai déjà dit, quatre types de laits qui ont été concernés. Et ensuite, quand on a vu qu'il y avait la tour de séchage qui était concernée et l'usine en général...
C'est l'usine de Craon dans la Mayenne.
Dans la Mayenne. Le gouvernement, et avec l'accord de Lactalis, mais ils n'avaient peut-être pas beaucoup le choix, a décidé de retirer l'ensemble des produits Lactalis. Mais, et là... Mon objectif, c'est encore une fois de rassurer les familles. La très grande majorité des laits Lactalis ne sont probablement pas contaminés. Donc, faut pas s'affoler. Madame la ministre de Côte d'Ivoire a précisé qu'il n'y avait aucun cas en Côte d'Ivoire. Il y a eu une quarantaine, on va dire, de cas en France sur des dizaines de milliers d'enfants qui ont été alimentés par ces laits-là. Donc, je crois qu'il faut rassurer les familles. Je ne défends pas, bien évidemment, qu'à partir du moment où il y a un ordre qui est donné, il est inadmissible que les pharmaciens, les distributeurs ne retirent pas tous les laits. C'est pas à eux de juger. Moi, je me place du côté.
Mais on a même
patients.
Du mal à comprendre, hein, face aux répercussions catastrophiques en termes d'image, en termes de communication, que les gens aient joué à quelques centaines de boîtes près. Ça paraît totalement incohérent.
C'est incohérent, mais encore une fois, je crois qu'il faut rassurer les familles. C'est mon objectif ici, c'est de rassurer les familles. Si elles ont consommé par accident des scellés-là, il n'y a pas péril en la demeure. La très grande majorité ne vont absolument rien avoir, même si, et je le répète, il est inadmissible qu'après un ordre aussi médiatisé, il y ait eu encore des ventes de lait Lactalis.
Rassurer les familles, justement, président de cette association des victimes du lait que vous représentez, Quentin Guimien, vous voulez réagir?
Oui, bah, écoutez, moi j'entends les propos rassurants, seulement on est dans une situation où on en parle depuis un mois et demi. Je vous rappelle quand même que tout ce scandale a été émaillé d'éléments que nous avons découverts nous-mêmes, nous les familles. Et je le redis parce que les cinq lots qui sont apparus le 18 décembre, qui n'étaient présentes sur aucune liste, quand je parle aucune liste, c'est aucune liste officielle, aucune liste de Lactalis, que nous avons découvert parce que retiré dans les pharmacies, qu'un pharmacien nous prévient, que nous sommes obligés de sortir dans la presse pour qu'enfin les listes soient actualisées, qu'aujourd'hui même, au moment où je vous parle, vous ne trouvez aucune liste sur les sites officiels du ministère de la Santé, de la répression des fraudes, récapitulant l'ensemble des produits concernés, vous voyez, vous êtes obligé d'aller sur le site de Lactalis. Il semblerait que l'État n'assume pas totalement la liste de Lactalis, vous voyez, là ça pose un certain nombre de questions. Et autant vous dire qu'on n'est pas rassuré. J'ajoute que il faut pas refaire l'histoire, parce que les lots retirés le 2 décembre, je suis d'accord avec vous, il s'agissait de 12 lots en question.
4.
Avec 12 lots avec 4 types de lait.
4 marques.
Je rappelle quand même que suite à ça, il y a eu 8 nourrissons malades. Et que suite à ces 8 nourrissons malades, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère, hein, 8 nourrissons malades, à ce moment-là, on découvre qu'il s'agit de plus de lait éventuellement concerné, et que le ministre de l'économie et des finances prend un arrêté pour interdire la commercialisation et l'exportation de 620 autres lots. Puis, le 21 décembre, Lactalis décide de retirer toute la production depuis le 15 février. À l'heure actuelle, Lactalis décide de retirer l'ensemble de la production de son usine. Il ne faut pas refaire l'histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est ça la chronologie des faits. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous n'avez aucune liste sur les sites, malgré l'engagement qu'avait pris Monsieur le maire dans sa conférence de presse, aucune liste officielle. Et moi, j'aimerais avoir une liste officielle aussi de l'ensemble des produits concernés sur le marché mondial. Parce que vous parliez des types de lait. Quand vous avez des collègues à vous, hein, qui m'appellent moi, pour me demander quelles marques sont concernées dans leur pays, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les marques en question. Parce que dans ces pays-là, vous n'avez pas forcément l'origine du produit. Voilà. Et donc, vous ne savez pas quel produit est produit à Craon. Et personne aujourd'hui, je vous le dis, personne ne m'a répondu à cette question. Quels sont les produits exacts qui ont été produits dans cette usine, qui sont issus de cette tour de séchage dont vous parliez tout à l'heure.
Professeur Patrick Tounian se pose la question de la traçabilité.
Oui, et surtout, tout ce que vous avez dit est juste à un détail près. Sur le site du ministère de la Santé, depuis le début, il y a la liste de tous les laits français, pas internationaux, avec les substituts de remplacement. Je le sais d'autant plus que c'est moi qui l'ai faite.
Parce que justement, quand il y a eu une certaine panique aussi de la part des parents, parce que d'accord, on arrête de donner le lait Lactalis, professeur Tounian, mais il fallait savoir, puisqu'on a dit c'est une alimentation exclusive, qu'est-ce qu'on donne à la place?
Absolument, et c'est pour ça que nous avons, à la Société française de pédiatrie, fait ça en urgence, et avec une réactivité, parce que j'avais fait une erreur, et elle a été corrigée dans les 3 heures qui ont suivi mon mail. Donc, allez sur le site du ministère de la Santé.
On fera le test après l'émission, et vous verrez qu'effectivement, on ne parle pas de la même chose.
Alors, il y a la liste de tous les laits français, il n'y a pas la liste de tous les lots. C'est pour ça que j'ai dit que vous aviez raison. Mais il y a la liste des laits français avec leurs substituts.
Et vous savez que c'est les familles qui faisaient le regard sur le numéro de lot. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils se sont aperçus que certains distributeurs continuaient à vendre des lots incriminés.
Mais c'est encore mieux, puisque nous, on n'a pas distingué les lots, puisqu'on a considéré qu'à partir du moment où il y avait un lait Lactalis, quel que soit son lot, il fallait le remplacer.
Oui, mais vous parlez de la Société française de pédiatrie, monsieur. Vous ne parlez pas de l'État, vous voyez.
Ministère de la Santé. C'est sur le site du ministère de la Santé. On ira voir. D'ailleurs, tous les auditeurs peuvent vérifier. C'est moi qui l'ai faite, monsieur.
Alors, on va revenir justement à ce problème aussi d'informations qui n'arrivent pas forcément à l'heure. Et tout ça, en fait, c'est un petit peu cette opacité. On disait chez Lactalis, seul chiffre publié par cette entreprise, ce géant, 17,3 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires. Benjamin Dourier, on a quand même l'impression que les autorités ont laissé faire depuis longtemps, peut-être depuis trop longtemps, et que ça s'est terminé finalement par un scandale sanitaire.
Alors là, effectivement, ce qui ajoute, on le voit, énormément de confusion dans cette affaire, c'est ce rappel en plusieurs étapes. Et effectivement, à l'arrivée, on n'y comprend plus rien, parce qu'il y a plusieurs listes, il y a des listes sur le site des ministères, mais le problème, c'est que comme le rappel a été plusieurs étapes, il y a plusieurs listes avec plusieurs documents qui font des dizaines de pages.
Ils ont été mis à jour,
et effectivement, c'est assez compliqué de s'y retrouver en tant que consommateur.
Mais le citoyen lambda, monsieur, ne va pas sur le site du ministère tous les jours, vous voyez. C'est un peu le problème.
En tout cas, effectivement, ça participe à la confusion. Je veux revenir sur un élément que vous avez évoqué tout à l'heure, sur la multiplicité des marques qui sont concernées, parce que je pense que ce genre de choses, ça peut ajouter ou expliquer en partie l'ampleur de l'inquiétude des familles. C'est qu'en plus d'avoir cet épisode de salmonelle, à cette occasion, finalement, les consommateurs découvrent que plusieurs marques différentes, même jusqu'à des dizaines de marques différentes, peuvent appartenir au même groupe, parce que ça, dans sa vie de tous les jours, le consommateur le sait pas forcément, et qu'en plus d'appartenir au même groupe, tout sort de la même usine. Et effectivement, le fait de découvrir cela à l'occasion d'une crise sanitaire, ça renforce encore plus l'inquiétude des consommateurs et la défiance à l'égard des industriels.
Alors justement, face à ces ratés, le ministère de l'Économie et des Finances a annoncé des mesures, Conseil national de la consommation, dont font partie les associations de consommateurs, qui devraient préparer pour la fin du mois d'avril des propositions d'action. Également, la création d'un site internet recensant tous les produits concernés par une procédure de rappel. Là, pour l'instant, c'est à l'étude. Mais en fait, cette base de données à 60 millions de consommateurs, Benjamin Dourier, vous la réclamez depuis des années et des années.
Effectivement. Alors nous, on essaye de tenir à jour une rubrique sur les rappels de produits sur notre site internet. Il faut savoir que c'est extrêmement compliqué. Or, le cas de cette affaire-là, qui est effectivement extrêmement particulière parce qu'elle a été très médiatisée, mais il faut savoir qu'il y a énormément de produits qui sont rappelés ou qui sont retirés des rayons en toute discrétion par les professionnels. Souvent, on le voit dans les supermarchés, marché en France, il y a parfois des petites affichettes à l'accueil ou dans les rayons disant que tel produit est rappelé. L'affichette, elle reste quelques semaines et puis il n'y a pas grand monde qui la voit parce que vous ne retournez pas forcément là où vous avez été faire vos courses pour acheter tel type de produit. Donc effectivement, il y a un vrai souci d'information du consommateur sur les rappels de produits qui dépasse cette affaire Lactalis, puisque là, dans cette affaire Lactalis, personne ne peut dire qu'il n'avait pas entendu parler de ce rappel. Mais sur les autres rappels moins médiatisés, souvent les choses se font un peu en catimini.
Professeur Patrick Tounian, nouvelle affaire de santé publique, dans un contexte, qu'on peut le dire, de défiance croissante à l'encontre des acteurs de santé. Il y a le Lévothyrox, l'affaire n'est toujours pas close, la justice là aussi s'en mêle. On a entendu le mouvement anti-vaccin, très puissant relais des réseaux sociaux. Et puis cette affaire Lactalis, qui mêle en fait une nouvelle crise pour les acteurs de santé, même si les médecins ne sont pas directement concernés par cette affaire-là. Finalement, est-ce que vous en ressentez les effets? Vous regrettez tout cela? Parce que finalement, c'est encore une nouvelle fois une mauvaise communication, on l'a dit, qui n'est pas forcément de votre fait, mais qui vous retombe dessus.
Vous avez tout à fait raison et merci de me poser cette question parce que ce qu'on craint, nous pédiatres, c'est que les gens soient de plus en plus inquiets vis-à-vis des laits et se tournent vers des substituts, notamment à base de végétaux, qui ne sont absolument pas adaptés aux nourrissons et qui là vont aboutir à des complications extrêmement sévères.
Là on parle de santé publique, c'est très important.
C'est très important. Encore une fois, bien évidemment que cette affaire est inadmissible, mais il ne faut pas mettre tous les laits dans le même panier et surtout pas se tourner vers des jus ou des boissons végétales à base d'amandes, de noisettes, qui ne sont
de soja,
qui ne sont absolument pas adaptés aux nourrissons et qui là aboutissent à des complications extrêmement sévères, voire aux décès qui ont malheureusement défrayé la chronique il y a encore quelques mois. Donc ces affaires sont inadmissibles, elles ne devraient plus se répéter et je pense que le gouvernement va faire ce qu'il faut et je répète pour moi, le ministère de la Santé et le ministère de l'Économie et des Finances a réagi comme il devait réagir et j'espère que ça ne se retournera pas vers la population parce que moi c'est ça qui m'intéresse, mes patients et que les enfants seront toujours bien alimentés et en France on peut se targuer quand même d'avoir une alimentation particulièrement sécure.
Pour les enfants. Merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Benjamin Dourier, rédacteur en chef adjoint, 60 millions de consommateurs. Quentin Guillemin, président de l'association des familles victimes du lait contaminé au salmonelle. Et vous, Patrick Tougnan, professeur Tougnan, pédiatre, chef du service de nutrition de l'hôpital Trousseau à Paris. Et merci à l'équipe de Priorité Santé qui, chaque jour, fabrique votre émission. C'est Toussama Ké, Ophélie Lassen, Didier Bleu. Demain, nous parlerons environnement et santé respiratoire. Pour poser vos questions, le téléphone 33 84 22 75 75. Et pour écouter Priorité Santé, www.rfi.fr, rubrique émission. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounois Assurance qui vous souhaite une bonne et heureuse année pleine d'assurance. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance.